Mes grands-parents allaient à la messe tous les dimanches matins. Le samedi soir, ils ciraient leurs chaussures et préparaient déjà leurs plus beaux habits pour le lendemain, et quand j'étais en visite chez eux, je devais faire pareil. Ah oui, il fallait aussi se laver de fond en comble, et comme il n'y avait pas de salle de bain, c'était dans une cuvette dans la cuisine que ça se passait. Le dimanche matin, j'avais droit à des veclas, une spécialité du coin, une sorte de petit pain sucré dont je garde un excellent souvenir. Ensuite, c'était le branle-bas de combat. Il fallait être impeccable et briller comme un sous-neuf. Je me souviens encore, comme si c'était hier, que j'étais aussi obligé de me laisser brosser les cheveux, et ça me faisait mal à la tête. Apparemment, le dicton qui dit « il faut souffrir pour être belle » s'applique aussi aux enfants. Bref, il fallait que tout soit nickel, moi inclus. Était-ce pour honorer Dieu? Sur le chemin du retour, les grandes personnes caquetaient sans retenue et le sujet de conversation était centré autant sur ceux qu'on n'avait pas vus à la messe que sur les présents. Ces derniers avaient évidemment été examinés de très près, surtout leur look, leur tenue vestimentaire. Bref, le retour à la maison se faisait dans une atmosphère chargée de cancan. Et puis, après ce petit interlude, la vie reprenait son cours normal. Mais déjà enfant, j'avais l'impression que quelque chose clochait dans la religion. Arrivé à l'âge de 12 ans, j'ai suivi la préparation à la communion solennelle et je commençais à me poser de sérieuses questions existentielles. Alors, en toute logique, j'ai demandé au prêtre de service si c'était sûr qu'il y avait un Dieu. Très mauvaise idée. Je me suis pris un méga gros savon et il m'a même menacé de ne pas me laisser faire ma communion. Je me suis senti mal, très mal, parce que la communion, c'était l'occasion d'une grande réunion de famille, avec gros repas, et tout était déjà prévu. Ça aurait déclenché un scandale pas possible si j'avais été recalé. Et puis j'aurais pas eu un missel tout neuf, ni ma première montre. Je vous fais pas dire qu'à partir de ce moment-là, je suis rentré dans les rangs illico presto et que je n'en suis plus ressorti. Comme par miracle, je n'avais plus aucun doute ni aucune question à poser. Mon horizon religieux était désormais bleu d'azur, sans le moindre petit nuage. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans le royaume nord d'Israël, on observait à la lettre certaines prescriptions rituelles de la loi de Moïse, mais ce n'était que quelques tours de passe-passe afin de s'attirer les bénédictions divines. De plus, on peut être sûr que les dîmes qui étaient régulièrement offertes provenaient en grande partie de rapines. Cette pratique religieuse qui consiste à réciter des formules et à faire certains gestes est propre à l'homme qui essaye d'exploiter pour son compte personnel les puissances de l'au-delà. Environ 150 ans après la fin du ministère d'Amos, un prophète de l'Éternel fut envoyé au royaume de Juda pour adresser aux Israélites du Sud les mêmes reproches que ceux qui avaient été faits au royaume du Nord. Je lis le passage. « Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères ? Vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui vous étaient inconnus, et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites « Nous sommes en sécurité, et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. » Fin de citation. Quand Jésus annonçait la venue du royaume de Dieu, comme les prophètes qui l'ont précédé, il a remis en place très vertement les chefs religieux de son temps à cause de leur hypocrisie. Je lis un extrait. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Le prophète Amos annonçait la venue de jugement et surtout le châtiment ultime qui mettrait une fin définitive au royaume des 10 tribus du Nord. Mais ce n'était pas vraiment des nouvelles fraîches, parce que la nation avait déjà été soumise à un régime disciplinaire de la part de Dieu. Je continue à lire dans le chapitre 4 du livre d'Amos. « Moi, l'Éternel, je vous ai envoyé la pureté des dents dans toutes vos cités. J'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. » L'Éternel le déclare. Verset 6. Les Israélites n'avaient pas les dents bien propres à cause d'un bon dentifrice, mais parce que dans le passé, le royaume avait connu la famine. Dans le Proche-Orient ancien, lorsqu'une nation suzeraine concluait une alliance avec une vassale, elle rédigeait un document officiel dans lequel figurait, entre autres, les châtiments qu'elle infligerait à la nation vassale si cette dernière venait à se conduire d'une façon déloyale. La loi de Moïse contenait aussi une longue série de malédictions contre le peuple choisi au cas où il viendrait à se révolter contre son Dieu. Le manque de nourriture en faisait partie. Je lis un passage. « Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours. » Le but des jugements de Dieu était disciplinaire. Motiver les Israélites du Nord à se repentir et à revenir à l'Éternel. Mais tout au long de leur histoire, ils ont persisté dans leur rébellion. À partir d'ici, Amos va mentionner 7 plaies que l'Éternel a infligées à son peuple. La première est la famine, ensuite la sécheresse, puis les maladies des plantes, qui furent suivies d'invasions d'insectes, de la peste, de la guerre et enfin des tremblements de terre. On retrouve toutes ces calamités dans les sanctions prévues par la loi de Moïse en cas de transgression des clauses de l'Alliance. Je continue le texte. « Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons, ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevant pas, était tout à fait sec. » Verset 7. La deuxième plaie est l'absence ou l'insuffisance de pluie, ce qui est conforme à l'une des malédictions de la loi. Je lis le passage. « Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. » En Israël, les premières averses étaient attendues à l'époque des semailles, fin octobre, début novembre. Amos parle ici de celles qui devaient tomber à partir du mois de décembre pour gonfler le grain et garantir de bonnes récoltes en mars. Il semble donc que la pluie soit arrivée trop tard et partiellement dans un endroit et pas dans un autre. Dieu n'a pas privé le pays entièrement d'eau, mais c'était un très mauvais arrosage qui a entraîné une mauvaise moisson. Cet étrange phénomène d'une pluie qui tombe sur un village et pas sur un autre, pourtant à proximité, ou sur un terrain cultivé et pas sur celui du voisin qui lui est juxtaposé, a pour but de rappeler au peuple d'Israël que ce n'est pas Baal, le faux dieu de l'orage, qui décide où la pluie tombe, mais c'est l'Éternel qui, dans sa souveraineté, dirige les éléments naturels comme il le veut. Je continue le texte. Les gens de 2 ou de 3 villes se traînaient vers une autre pour demander de l'eau à boire sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Verset 8. Non seulement le sol et les récoltes ont manqué d'eau, mais dans certains endroits où il n'est pas tombé une seule goutte de pluie, les gens souffraient de la soif. Ils devaient alors aller dans une localité voisine pour chercher de l'eau, mais elle était vite épuisée et il fallait recommencer. Mais c'était une occupation pénible que de faire de longs trajets à pied ou à dos de mulet avec quelques lourdes jarres de terre pour chercher de l'eau. Tout comme pour la première plaie, ce nouveau châtiment n'a pas accompli son objectif qui était d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Je continue. « Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. » L'Éternel le déclare. Verset 9. La troisième plaie fait suite à la sécheresse et se compose de deux maladies qui ont frappé les plantations de céréales. Le mot traduit par « rouille » signifie « brûlure ». C'est le vent d'Orient venu du désert qui en était la cause. Ce même mot est utilisé dans le songe du Pharaon qui dit avoir vu sept épis maigres et brûlés par le vent d'Est qui poussait après les sept épis gras et beaux. Le mot pour niel veut dire pâleur, lividité. La rouille et la niel sont mentionnées ensemble dans les malédictions prévues par la loi. Je lis le passage. « L'Éternel vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et la niel. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. » Fin de citation. Quant à l'invasion de criquets, un mot qui peut aussi être traduit par « chenille », elle correspond également à l'une des malédictions prévues par la loi. Je lis le passage. « Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. » Cette invasion d'insectes était redoutable et le roi Salomon l'a rappelé au peuple lors de la dédicace du temple. Ici encore, à nouveau châtiment, même réaction d'obstination des Israélites qui persistent dans leur rébellion contre l'Éternel. Je continue le texte. « Et j'ai déchaîné contre vous la peste comme je l'avais fait contre l'Égypte. » J'ai tué par l'épée vos jeunes gens en même temps que vos chevaux capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. Verset 10. Nous arrivons à la cinquième et sixième plaie qui sont la peste bubonique et la guerre. Dans le traité d'alliance de la loi de Moïse, Dieu dit à son peuple que s'il obéit, l'Éternel vous préservera de toute maladie, il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez, il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Mais Moïse a aussi dit, « Si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. L'Éternel déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées et elles s'attacheront à vous. » L'Égypte apparaît ici comme un lieu particulièrement insalubre et en effet, les voyageurs anciens et modernes s'accordent pour dire que c'était un pays où les maladies graves abondent. Pline l'Ancien, un écrivain romain du 1er siècle, appelle l'Égypte la mère des maladies contagieuses. Plus le peuple est moralement sain et plus il l'est physiquement aussi. Les deux fonctionnent ensemble. Quant aux guerres, elles étaient évidemment l'accomplissement de l'une des malédictions prévues par la loi. Je lis de passage. « Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. » La guerre mentionnée par Amos opposa Israël Nord à la Syrie et fut particulièrement meurtrière pour les Israélites qui subirent de lourdes pertes. Jeunes hommes tués, la cavalerie sur laquelle ils comptaient capturée et détruite, et les cadavres des soldats morts au combat qui se décomposent dans les champs. Ce conflit eut lieu sous le règne du roi Joachaz, fils et successeur de Jéhu sur le trône d'Israël Nord. Ce fut un roi impie comme tous les autres. Je lis un passage. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et adopta la conduite coupable de Jéroboam premier qui avait entraîné Israël dans le péché. Il ne se détourna pas de cette mauvaise voie. Alors l'Éternel se mit en colère contre Israël. Il livra ses habitants pendant toute cette période au pouvoir de Hazaël, roi de Syrie, et de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Les Syriens s'emparèrent d'une ville après l'autre. Finalement, de toute l'armée du roi, il ne restait à Joachaz que 50 hommes d'équipage de chars, 10 chars et 10 milliers de fantassins, car le roi de Syrie avait détruit le reste et l'avait réduit à l'état de poussière que l'on piétine. Dans ce triste tableau apparaît quand même une petite lueur. Le texte dit « Mais Joachaz supplia l'Éternel d'apaiser sa colère. L'Éternel l'exauça car il avait vu comment le roi de Syrie opprimait Israël. Il envoya aux Israélites un libérateur pour les délivrer des Syriens. Dès lors, ils purent de nouveau vivre tranquilles chez eux comme autrefois. » Les Écritures ne donnent pas d'autres précisions, mais ce libérateur est probablement le roi d'Assyrie qui attaqua les Syriens, ce qui les obligea à quitter le royaume d'Israël et à regagner leur pays pour le défendre. Toutefois, la récupération des villes prises par les Syriens n'eut lieu que pendant le règne du successeur de Joachaz, son fils Joas, ensuite Jéroboam II, sous lequel Amos prêche, réussit à rétablir les anciennes frontières d'Israël. Je continue le texte d'Amos. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorre, et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. L'Éternel le déclare. Verset 11. Nous arrivons au septième jugement. Ici encore, il s'agit de l'accomplissement d'une malédiction de la loi. Je lis le passage. Lorsque la génération à venir, celle de vos fils qui vous suivront, et les étrangers venus de pays lointains verront les fléaux et les catastrophes que l'Éternel aura infligées à ce pays, lorsqu'ils constateront que tout est ravagé par le soufre, le sel et le feu, que la terre est inculte et improductive, au point qu'aucune herbe n'y pousse, qu'elle est ruinée comme Sodome et Gomorre, Adma et Tseboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère ardente, tous ces peuples se demanderont « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Quelle était la cause de cette grande et ardente colère? » Alors on répondra, « Cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, avait conclue avec eux après les avoir fait sortir d'Égypte. » Amos parle donc de tremblements de terre et cataclysmes qu'on qualifie de naturels, mais qui ne le sont pas toujours. La preuve est qu'un texte dit que l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. Soit dit en passant que c'est suite à cette catastrophe que s'est créée la mer morte. Le tremblement de terre auquel Amos fait allusion n'est pas celui qu'il mentionne dans l'introduction du livre parce qu'il est encore à venir, tandis que ce catalogue de cataclysmes est du passé. Malgré ces plaies, et en particulier les bouleversements du même type que ceux qui ont détruit les villes maudites, Dieu dit « Vous avez été comme un tison sauvé du feu ». Israël Nord s'en est sorti, puisqu'il a échappé au sort qui avait frappé Sodome et Gomorre. La nation existe toujours. Cependant, elle a souffert, et même si au temps de Jéroboam II, le pays connaissait un boom économique, ce n'était qu'une accalmie avant la tempête qui allait emporter le royaume des 10 tribus et l'effacer de la carte à tout jamais. Alors que le prophète Amos passe en revue 7 fléaux que l'Éternel a envoyés contre son peuple, il répète 5 fois le triste refrain « Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi », l'Éternel le déclare. La plus grande stupidité de l'homme est certainement de croire qu'il pourra échapper au jugement de Dieu.